Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Lecaplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction brésilienne, Lucia Musel.
Hola.
Pour la dernière provocation du président Bolsonaro, qui appelle tout simplement à manifester contre le Congrès. Lucille Gimbert, de la rédaction en espagnol.
Buenas tardes.
À propos de la décision de la Cour suprême américaine de maintenir le programme Restez au Mexique. Et Pizemam, de la rédaction cambodgienne.
Sous-day.
Car l'économie est prise dans de sérieuses turbulences, en ce moment. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous bien sûr à cette épidémie de coronavirus qui ne cesse de s'étendre dans le monde. L'Europe est à son tour touchée et les Amériques qui s'inquiètent désormais. Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol. Les pays latino-américains ont d'ores et déjà pris de nombreuses mesures pour tenter de freiner l'avancée du Covid-19.
Oui, pour le moment, plus de 250 personnes ont le coronavirus en Amérique latine. Hein, dans 15 pays, c'est des chiffres beaucoup moins importants qu'en Europe, par exemple. 3 personnes en sont mortes. Deux hommes sexagénaires en Argentine et au Panama et plus récemment une femme de 52 ans en Guyane. Le problème, c'est que nombre des premiers cas en Amérique latine étaient des personnes qui venaient de séjourner dans des zones fortement touchées par la pandémie, notamment en Europe. Beaucoup de pays latino-américains ont donc décidé ces derniers jours de suspendre ou de restreindre les vols à destination et en provenance d'Europe, de Chine et parfois aussi d'autres pays asiatiques et d'Iran. Au Chili, en Colombie, en Argentine notamment, les autorités isolent également les personnes en provenance de pays affectés. Et puis dans la région, le mois de mars, eh bien, ça correspond à l'entrée, à la rentrée des classes. Eh bien, elle est repoussée au Pérou, en Équateur, au Paraguay notamment. Même chose pour de nombreux événements culturels et pour de nombreux rendez-vous sportifs. Deux exemples, en football, la Copa Libertadores est suspendue et les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar repoussé.
Et plus précisément au Brésil, Lucia Musel, que se passe-t-il ?
En Amérique latine, le Brésil a été le premier pays touché par ce virus fin février, mais maintenant, nous avons déjà plus d'une centaine de cas avérés et la crainte générale, c'est que ces chiffres puissent monter très rapidement. Une étude australienne qui a estimé le nombre de morts par pays dit que plus de 250 000 personnes pourraient décéder du Covid-19 au Brésil. C'est énorme. Néanmoins, le gouvernement ne semble pas prendre les risques au sérieux ni avoir compris l'ampleur de cette pandémie. Et comme nous avons vu en Italie, ça c'est la pire pour sûr à adopter face au coronavirus. Agir après, ce sera trop tard.
Le président brésilien Jair Bolsonaro a lui aussi été inquiet, hein, Lucia.
Oui, tout à fait. Les regards sont tournés vers le président qui pourrait lui-même être touché par le virus. Il a passé un test le jeudi et les résultats ont été divulgués ce vendredi. Selon Bolsonaro, c'est négatif. Mais entre-temps, quelques médias, y compris l'américain Fox News, avaient divulgué le contraire, citant son fils comme source. C'est donc l'incertitude. Ces doutes avaient été installés depuis que son secrétaire de communication a été confirmé positif plus tôt cette semaine. Ce jeudi, pendant en direct sur les réseaux sociaux, le président brésilien portait un masque. Il a précisé qu'il prenait cette précaution car un de ses proches collaborateurs présent lors des récents voyages aux États-Unis était positif pour le coronavirus. Et même dans ce contexte, le président brésilien n'a rien annoncé de nouveau par rapport à tout ça. Écoutons-le.
O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos.
Que dit le président brésilien ?
Il dit que le système brésilien de santé a ses limites et pas tous les patients ne pourront être soignés. Mais malgré tout, il assure que son gouvernement est attentif et gardera l'évolution de la situation sous contrôle. Pas très rassurant en fait, cela montre à quel point le Brésil ne prévoit rien du tout pour stopper cette épidémie, du moins pour le moment. Et d'ailleurs, 2 jours plus tôt, Bolsonaro disait que la pandémie était en délire de la presse.
Oui, alors que faut-il faire, Lucie Gimbert ? Les pays latino-américains doivent préparer leurs services de santé car il n'y aura pas seulement un cas ou deux. C'est ce que dit l'Organisation panafricaine de la santé, l'équivalent de l'OMS. La région est-elle prête ?
Alors c'est difficile de répondre parce que d'abord, beaucoup de systèmes de santé ont été privatisés. En Amérique latine, et dans, en temps normal, les plus pauvres, les populations les plus pauvres n'ont pas toujours accès à une santé de qualité. Alors que se passera-t-il si les cas de coronavirus sont nombreux ? Très rapidement, les services publics de santé parviendront-ils à faire face ? Les États, en tout cas, vont devoir mettre la main à la poche et organiser la réplique sanitaire. Certains y parviendront sans doute. 4 pays semblent particulièrement vulnérables. Ils vont recevoir d'ailleurs une mission de soutien de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS. Il s'agit d'Haïti, du Venezuela, Venezuela, du Honduras et du Paraguay.
Et pour le Venezuela, donc vous venez de parler, le cas est particulièrement préoccupant dans la mesure où les hôpitaux sont en mauvais état, il manque de médicaments, il manque de matériel médical à cause de la crise économique.
En effet, il n'y a pas de cas déclaré de coronavirus au Venezuela d'après le régime chaviste pour le moment, mais des professionnels de santé ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous ne sommes pas préparés pour traiter les patients atteints du nouveau coronavirus. Le matériel pour gérer les insuffisances respiratoires, par exemple, et même l'eau potable manque dans certains hôpitaux, nous a dit l'infectiologue Rafael Wong depuis l'état de Bolívar au Venezuela.
Lo primero que yo diría, le hace falta a todos nuestros hospitales agua, jabón.
Quels sont les conseils dispensés par ce médecin?
Il dit qu'on manque d'eau, de savon, de chlore ou d'eau de Javel. Voilà ce qu'il nous faut avant tout, c'est ce qu'il explique. Nous manquons de ressources, de matériel et d'intrants médicaux nécessaires. Le président Nicolas Maduro a, lui, quant à lui, réclamé la levée des sanctions américaines qui, selon lui, font tripler le prix des tests pour diagnostiquer ce nouveau coronavirus.
Autre pays en difficulté dans la lutte contre le coronavirus, c'est le Honduras.
Oui, le Honduras où deux cas ont été détectés et selon la secrétaire du syndicat des travailleurs de la médecine des hôpitaux et assimilés, Irma Macias, eh bien ce système de santé manque de matériel médical malgré l'aide de l'Organisation panaméricaine de la santé. On l'écoute.
La OPS a estado apoyando con equipo. También quedaron de donar algunos respiradores.
Que dit Irma Macias?
La OPS nous a aidé, nous a donné des équipements, des respirateurs vont bientôt arriver. Tout ça, c'est très important, mais nous faisons face à beaucoup de bureaucratie dans le secteur public, dénonce-t-elle. Pour arriver à obtenir le reste du matériel nécessaire, c'est très compliqué. Il nous manque notamment des masques de protection. Nous avons reçu des dons, mais ça n'est pas suffisant. Et à noter pour finir que plusieurs pays comme le Honduras font déjà face à une épidémie de dengue, avec plus de 3 millions de cas en Amérique latine.
Lucia Musial, je reviens vers vous. On disait tout à l'heure que Jair Bolsonaro ne souffre finalement pas du Covid-19, en tout cas officiellement. Il faut noter qu'il y a quelques jours, lui et son équipe étaient aux États-Unis où ils ont rencontré Donald Trump. Alors, est-ce que le président américain a pu être contaminé?
C'est toute la question à laquelle on n'a pas encore une réponse très claire. Selon la presse brésilienne, ce collaborateur de Bolsonaro testé positif est resté une dizaine de minutes en contact direct avec M. Trump, à qui il a serré très fort la main, lui a même offert une casquette. Il a cette photo où on le voit au dos du président américain, tout proche. Et d'ailleurs, cette même équipe brésilienne a rencontré également le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et d'autres proches collaborateurs de Trump. Mais comme le président américain refuse jusqu'à présent de se faire tester, on ne saura peut-être pas qui pourrait être à l'origine d'une éventuelle contamination au sommet de ces deux États.
Pizemam, pour ce qui est du Cambodge, il y a combien de personnes contaminées et quelles sont les mesures qui sont prises par les autorités?
Alors, pour le moment et officiellement, il y a 5 cas connus au Cambodge. Un Chinois déjà guéri et rentré en Chine, un Cambodgien et 3 touristes britanniques sur un bateau de croisière venant du Vietnam testé positif au coronavirus il y a 2 jours. Concernant les mesures pour lutter contre la propagation de ce virus, il y en a très peu au Cambodge. La mesure la plus importante, c'était la fermeture jusqu'à nouvel ordre de toutes les écoles dans la ville de Siem Reap le 7 mars. C'est dans cette ville où un Cambodgien chauffeur de tuk-tuk a été testé positif au coronavirus après avoir été en contact avec un touriste japonais, lui-même porteur du virus. Les autorités cambodgiennes ont aussi installé des caméras thermiques dans les 3 aéroports internationaux du pays, mais on doute de l'efficacité de ces dispositifs.
Oui, donc un bilan somme toute peu important. Pourtant, il y a beaucoup de Chinois qui vivent au Cambodge.
Eh bien, c'est là, Philippe, la surinquiétude parmi la population. Jusqu'à fin janvier encore, les avions venant de Chine arrivaient plusieurs vols par jour au Cambodge. Le manque d'informations transparentes de la part des autorités cambodgiennes a été une autre source d'inquiétude. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Il y a beaucoup de rumeurs. On dirait même que le premier ministre Hun Sen lui-même serait contaminé. Beaucoup pensent que les autorités cambodgiennes cachent la vérité sur la situation réelle.
À peu près comme ça partout. Hein.
Oui, effectivement. Donc, écoutons un instant la réponse de Mme Aung Van Dien, porte-parole du ministère de la Santé cambodgienne, face à ces accusations. Alors, elles disent que le gouvernement n'a aucune raison de cacher la vérité. Les autorités travaillent main dans la main pour apporter à la population les informations précises concernant l'état de propagation de ce virus. Il faut donc faire confiance aux autorités.
Oui, et donc elles confirment que le chiffre est bas, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter finalement.
Oui, mais il y a toujours un problème, Philippe. Selon un rapport d'un groupe de médecins et de mathématiciens de l'université de Harvard, estime qu'il est statistiquement impossible pour certains pays Asie du Sud-Est, tout particulièrement comme l'Indonésie, le Cambodge, la Thaïlande ou la Birmanie, de ne pas avoir plus de contamination. Il est très probable qu'il y ait des infections non détectées. D'après ces experts, les explications peuvent se trouver dans la faiblesse du système de santé. Comme la plupart des pays du sud-est asiatique, le Cambodge n'a pas de couverture maladie. Les médecins sont mal formés et il manque cruellement de matériel. La population très pauvre n'a pas d'habitude d'aller voir un médecin pour des symptômes grippaux.
Voilà, vous voulez dire que finalement, il y a peut-être des cas, mais on n'est pas au courant parce que l'information ne remonte pas. Je voudrais avec vous, Pizemam, qu'on aborde un autre aspect concernant le Cambodge. C'est que l'épidémie a fortement fait chuter le nombre de touristes chinois partout dans le monde, y compris au Cambodge. Hein. Le site des temples d'Angkor est ainsi déserté depuis maintenant plusieurs jours.
Oui, Philippe, c'est du jamais vu. Les temples de site d'Angkor sont presque vides alors que d'habitude des centaines de cas de touristes se déversent, plusieurs milliers de touristes chinois par jour. Plus personne ne précipite pour prendre la meilleure photo devant le temple d'Angkor Wat au lever du soleil. Les fameux tuk-tuk continuent d'attendre sans y croire les touristes. Depuis le début de l'année, le nombre de touristes chinois s'est effondré de 80 à 90% en Asie du Sud-Est, car Pékin a interdit les visites de groupes à l'étranger. Le secteur du tourisme au Cambodge a été touché en plein feu. Parmi les 7 millions de touristes étrangers, les touristes chinois représentent près de 40%, dont les hôtels, les autorités, les restaurants, les petits commerçants ont réduit les activités, voire licencié des personnels.
Et que fait le gouvernement?
Alors, pour tenter de compenser les pertes dans le secteur du tourisme, le premier ministre Hun Sen a annoncé des allègements fiscaux pour les hôtels et les maisons d'hôtes de la ville de Siem Reap, mais cette mesure est loin d'être suffisante pour aider tout le monde.
Oui, là on parle du tourisme, il y a aussi le secteur industriel qui est touché, frappé par ce coronavirus au Cambodge.
Oui, c'est vrai. En effet, l'industrie du textile au Cambodge, qui emploie plus de 700 000 ouvriers, est déjà très fragile suite au lever des préférences tarifaires décidées par l'Union européenne, dont le secteur représente 7 milliards de dollars par an pour l'économie cambodgienne, mais il dépend de 60% de matières premières venant de la Chine. Le ministère du Travail a annoncé déjà la semaine dernière qu'une dizaine d'usines avaient dû réduire leur production et mettre 300 ouvriers au chômage technique. Déjà.
Et on voit que finalement ce qui se passe au Cambodge, c'est ce qui se passe partout ailleurs. On parlait du tourisme, la Tour Eiffel est fermée, le Louvre est fermé, donc bien évidemment, c'est un impact sur le tourisme et sur le secteur industriel. Et le président Macron qui annonçait, comme au Cambodge, des mesures d'accompagnement de l'État pour essayer de limiter tout cela. Merci, Pizemam de la rédaction cambodgienne de RFI.
20 часов в Париже. Paris,
on juste thermomètre au stade.
C'est rendu, puis c'est aussi des.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Toujours concernant le coronavirus, la peur de la maladie au Brésil a fini par mettre un terme à une polémique visant le gouvernement brésilien. En effet, Lucien Mouzel, le président Bolsonaro avait encouragé des manifestations contre le Congrès, rien que ça.
Et oui, encore une affronte à la démocratie de la part de Bolsonaro. Ses supporters avaient convoqué des manifestations partout dans le pays ce dimanche, pas seulement pour le soutenir, mais aussi pour dénoncer le Parlement brésilien. Ils estiment que le Congrès n'avance pas assez le vote des propositions du gouvernement, et notamment ils veulent renforcer les moyens financiers de l'exécutif par rapport à ceux du Congrès. Un vrai bras de fer entre ces deux pouvoirs. Lors de sa dernière allocution télévisée pour parler du virus, Bolsonaro a estimé qu'il convenait de réfléchir sur le maintien de ces manifestations à cause de la pandémie, mais il a encore enflammé ses supporters en disant que leurs intentions étaient légitimes.
Alors finalement, ces manifestations vont-elles avoir lieu ou pas?
On ne sait pas. Face à l'appel du président, la plupart des organisateurs ont annulé la journée des mobilisations, mais cet épisode, de toute façon, il approfondit davantage la crise dans la relation entre le chef de l'État et ses ministres d'un côté et les députés et les sénateurs de l'autre. Dans notre rédaction, nous avons interviewé le juge Rubens Casar pour qui la tenue de ces manifestations serait extrêmement dangereuse pour la démocratie brésilienne.
na medida que se quer lançamento desse sistema, desse modelo de controle.
Quel est le propos de ce magistrat?
Il affirme qu'en voulant se passer du contrôle du Congrès, le président Bolsonaro montre sa volonté d'exercer en fait le pouvoir de façon très autoritaire. Il voit donc en danger et pense que ses partisans sont irresponsables à l'égard de la Constitution brésilienne.
Et ce n'est pas tout. Dans le début de la semaine, le président Bolsonaro avait encore douté du système électoral.
C'est ça, oui. C'est une question qu'il rebondit assez souvent, voire trop souvent, sans apporter aucune preuve. Bolsonaro a dit que le dernier scrutin était fraudé et qu'en vérité, il en serait sorti vainqueur dès le premier tour. Sauf que dire cela, ce n'est pas anodin. Cela peut signifier un crime de responsabilité si jamais il n'apporte jamais la preuve. Un député ou un sénateur pourrait à tout moment ouvrir une procédure de destitution du président pour calomnie. Pardon.
Lucien Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. À la rédaction Amérique latine, vous vous êtes intéressé cette semaine à une décision de la Cour suprême des États-Unis, Lucie Gimbert. La plus haute juridiction a autorisé le gouvernement de Donald Trump à continuer une politique qui a déjà permis de renvoyer au Mexique près de 60 000 demandeurs d'asile.
Oui, le programme s'appelle Rester au Mexique. Depuis 2019, il s'applique à tous les demandeurs d'asile arrivés aux États-Unis en passant par le Mexique, à l'exception des Mexicains. Concrètement, ce sont principalement des migrants d'Amérique centrale qui fuient la pauvreté et la violence dans leur pays. Alors, ce dispositif, imaginé par le gouvernement Trump, permet de les maintenir hors du territoire américain le temps que leur dossier de demande d'asile soit évalué. Et selon la Maison-Blanche, ils sont déjà plus de 60 000 à avoir été renvoyés en 13 mois d'application.
Mais voilà, une cour d'appel fédérale a bloqué ce programme il y a peu, estimant qu'il était illégal.
Oui, l'administration Trump a donc décidé de faire appel à la Cour suprême. Selon la Maison-Blanche, la suspension de ce programme allait pousser 25 000 migrants en attente aux États-Unis à traverser la frontière, ce qui aurait représenté, je cite, un fardeau hors norme pour le pays. La Cour suprême, qui penche du côté conservateur, on le sait, lui a donné raison. Elle a suspendu l'annulation du programme, le temps d'examiner le fond juridique de l'affaire.
C'est donc une victoire pour Donald Trump. Dans le même temps, c'est un coup dur pour les migrants, pour les organisations non gouvernementales qu'ils défendent.
Oui, un coup dur parce que d'après ces ONG de défense des droits de l'homme, les hommes, les femmes et les enfants qui attendent au Mexique survivent dans des conditions difficiles. Des centaines de migrants s'entassent dans des camps improvisés durant des semaines, voire des mois. Et en plus de la misère, ils sont victimes de nombreux abus et de violences. C'est ce que nous a raconté Soraya Velasquez. Elle est sous-directrice de projet à l'ONG de l'autre côté. L'autre lado.
Hemos constatado que las mujeres son víctimas de secuestro, de violación, los hombres también, la propia policía.
Que vous a dit Soraya Velasquez, qui est donc la sous-directrice de l'ONG de l'autre côté?
Des migrants sont tués, séquestrés, des femmes migrantes sont violées, parfois même la police mexicaine des régions frontalières les attaque pour leur extorquer de l'argent. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Il y a bien quelques hébergements d'urgence dans ces zones frontalières, mais beaucoup de ces migrants n'ont pas accès à la santé, ni même accès à une aide juridique durant cette procédure longue et fastidieuse de demande d'asile aux États-Unis. Soraya Velasquez ajoute aussi que certaines de ces personnes, de ces migrants qui viennent d'Amérique centrale, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, eh bien elles ont été victimes de tortures dans leur pays d'origine ou bien sur la route vers le nord. On sait que c'est une route très dangereuse et que certaines de ces personnes ont de sérieux problèmes de santé. Elles nécessitent donc une prise en charge fréquente et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles demandent pour ces personnes-là en particulier, les ONG réclame que les États-Unis les accueillent durant la procédure de demande d'asile.
Merci Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone de RFI. C'était Accent du Monde. Merci pour votre attention.